Bonjour et bienvenue, ce message vous est présenté par le Centre d'Adoration Vie Abondante, en sigle SAVA. Notre désir est que en l'écoutant vous soyez révolutionné par une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et que votre passion pour Dieu s'intensifie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 1-617-387-12-44 ou à l'adresse email suivante info@laviabondante.org. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Je bénis le Seigneur pour ces temps ici qu'on a passé dans sa présence, que nous sommes en train de passer dans sa présence. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'ai appris, que j'ai apprise, qui vraiment je serre dans mon cœur, je retiens, c'est que le grand secret dans la présence de Dieu, c'est l'obéissance. Ça, c'est le secret qui transforme, c'est le secret qui change. C'est l'obéissance. Expérimenter les miracles, expérimenter la gloire, la puissance de Dieu, je suis de plus en plus en train de me rendre compte que c'est facile, c'est simple. Il faut simplement se soumettre à la parole de Dieu et ta vie commence à changer. C'est tout ce que Dieu demande. Soumets-toi simplement à sa parole, ta vie commence à changer. Ça me fait penser à la parole de Dieu. Ça me fait penser encore au chef romain qui voulait que Jésus guérisse son enfant. Il envoie des gens, dit, laissez-le qu'il dise seulement un mot. Un mot bien-aimé. Est-ce que vous savez que toute la terre existe parce qu'il a parlé? Toute la terre. C'est-à-dire que si tu veux voir des choses dans ta vie, il doit dire quelque chose. Il doit parler. Ce n'est pas trop d'abracadabra. Il doit dire quelque chose. Vous savez, pendant que j'ai pensé, la Bible dit ceci dans Jean 1. Il dit, au commencement était la parole. Mais vous savez que plus tard, il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu ne peux pas, oh mon Dieu, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose tant que Dieu n'a encore rien dit. Il faut que la parole sorte de sa bouche. Il faut que la parole sorte de sa bouche. Tant qu'il n'a pas parlé, il n'y a pas de miracle. Tant qu'il n'a pas parlé, il n'y a pas de changement. Tant qu'il n'a pas parlé, ta vie reste telle qu'elle est. Un grand chaos. La Bible dit que quand Dieu s'est levé sur le balcon d'éternité, regarde la terre, c'était un grand chaos. Les ténèbres étaient partout sur la terre. Un grand vide, comme certains aspects de nos vies. Mais quand il a commencé à parler, ça c'est le miracle. Il n'a pas besoin de transpirer pour ton problème. Il a besoin de dire un seul mot. La Bible dit qu'il s'est levé devant la tempête qui menaçait les disciples. Il a parlé. Il fallait que la parole sorte. Il a parlé, dit un mot. Il a dit simplement un mot. Oh, qu'il dise un mot. Oui, il doit dire un mot. Quand il commence, vous savez, Jésus connaissait tellement la puissance de sa parole que quand la femme syrophénicienne est venue le déranger, prie pour mon enfant, comment que chasse le démon de mon enfant, et il me dit, il n'a rien dit. Il savait que s'il ouvre la bouche, les choses vont commencer à prendre place. Il n'a rien dit. La femme a insisté, puis il dit, écoute, ce que j'ai à dire là, je l'ai dit, il a appelé sa nourriture des enfants. Elle a dit, dis, même si tu dis seulement quelque chose maintenant, le démon va sortir, mon enfant sera restauré. Mon Dieu, tout ce dont on a besoin, c'est le son de sa voix. Le son de sa voix va remettre les choses en place. Tout le chaos, désordre, les ténèbres, le vide, là, il va remettre les choses en place. Ce qu'on peut dire, sa parole. On a tous besoin d'une instruction de la part de Dieu. Dieu a fait ceci. Ça me fait penser à, oh mon Dieu, les miracles. Vous connaissez le miracle des poissons? Les poissons, comment Jésus-Christ... comment les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien. Ils ont travaillé, ils ont peiné, ils ont sué et ils n'ont rien trouvé. Fatigués, ils ont abandonné leur travail. Ils sont allés, comme ils n'ont rien trouvé, fatigués, ils sont allés ils ont abandonné. Jésus-Christ vient. Il n'a pas besoin de se casser en mille morceaux. Tout ce qu'il a dit, ok, jetez le même filet là, dans la même eau. Au même endroit où toi tu as peiné, il n'y a rien. Il vient, il parle à la même situation, à la même condition. Ce que tu trouves,
va au-delà de ce que tu pouvais imaginer ou penser. Quel Dieu! Quel Dieu!
Quel Dieu!
C'est pour ça qu'il dit tout ce que Dieu demande, c'est la soumission à sa parole. C'est le seul moyen pour Dieu de te faire voir qui il est. C'est la parole. C'est la soumission à sa parole. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel préfère-t-il, vous voyez le passage qu'on a lu, il dit, est-ce que Dieu préfère les sacrifices à l'obéissance? Je vais lire le passage pour vous. Dieu préfère l'obéissance. Il ne veut pas les sacrifices. La Bible dit dans le livre de... on a lu ça dans Samuel. La Bible dit ceci dans Samuel. Il dit, en parlant du sacrifice, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte qu'on est de fois tellement religieux qu'on pense qu'on doit impressionner Dieu par nos activités religieuses. Vous savez que les prophètes de Baal, quand ils voulaient un miracle, ils se coupaient en mille morceaux. Vous connaissez l'histoire, non? Oh, l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Comme ils voulaient un miracle, ils se coupent, ils se mortifient, ils espèrent. Et je pense que beaucoup d'entre nous, bien qu'on est chrétien, on n'a pas quitté certaines pratiques qu'on a vues, apprises quelque part d'autre. Et on vient devant Dieu, on se mortifie, on espère qu'en se mortifiant, Dieu va écouter nos prières. Il dit, arrêtez vos sacrifices, ce n'est pas les sacrifices qui m'impressionnent. Je veux que tu écoutes le son de ma voix. C'est ça le miracle que tu attends. Ah, ce qui est simple, tu veux voir Dieu agir, sa parole. Tu dois donner priorité à la parole de Dieu. Priorité. 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 Quel que soit comment tu te sens, la parole doit être respectée. Quand il a parlé, ça sera ainsi pour toi. Ah,
la parole de Dieu. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est pour ça que Dieu dit, comme on a vu la parole passée, il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, soumis, malléable, si vous pouvez m'écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce sont les promesses pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Tout ce que Dieu dit, c'est si seulement tu écoutais. Là, ici même, il regrette et dit, oh, je te vois pleurer tout le temps. Je te vois médiocre. Si seulement tu m'écoutais, moi, Dieu, ton bien-être serait comme... Vous savez quoi? Je vais vous montrer un passage. Si vous pouvez, ouvrons nos Bibles un peu. Ouvrons un peu nos Bibles rapidement dans le livre de... vous voyez le psaume 119, là. Allons dans le psaume 119, mais lisons le verset 2. Psaume 119, verset 2. Et qui les cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent tes préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur. Être heureux ici, c'est un état. Oh mon Dieu. Être heureux, c'est un état dans lequel Dieu te met. Être heureux, c'est un état. Ça veut dire que tu es dans un état où rien, il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien qui t'inquiète. Il n'y a rien qui te fait peur. Tu es dans un état de grande tranquillité, de grand calme. Tu es heureux. Il n'y a rien qui te fait trembler. Parce que tu as gardé les préceptes. D'ailleurs, je vous une parenthèse. Vous savez quoi? On a des problèmes d'aller devant Dieu et de fois demander des grandes choses. Parce que quand on est devant Dieu, le diable est en train de nous accuser pour manque d'obéissance. C'est ce qu'il a fait avec Josué, le prophète. Il me dit, Josué va devant Dieu. Le Satan lui dit, mais tu vas l'écouter, mais il passe le temps à désobéir à tout ce que tu dis. Tu voulais dire, Seigneur, donne. Ah non, donne plus. Parce que tu as désobéi.
Mais la Bible dit heureux ceux qui gardent et puis qui font quoi? Qui cherchent de tout leur cœur. Autrement dit, la parole de Dieu, tu ne l'écoutes pas superficiellement. Quelqu'un qui a envie d'obéir, il veut bien connaître ce que Dieu est en train de dire pour appliquer son cœur à exécuter la lettre. Vous savez, une fois, j'envoyais ma fille Tess et j'ai remarqué qu'elle est souvent distante quand je l'envoie comme ça. Quand elle fait quelque chose, tu l'envoies, elle dit oui, elle part. Tu vois qu'elle est partie, mais elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Quand elle va revenir, elle dit, papa, tu avais dit que c'était où encore? Je dis, mais je t'ai tout expliqué avant de partir. Mais comme ton cœur était en train de regarder le film que tu regardais, donc en partant, tu n'as pas obéi. Tu n'étais pas disposé à m'obéir. Ce qui t'a intéressé dans ton cœur, et ce que tu voulais faire là. Donc en partant, ton cœur est resté au film. Au point où tu n'as pas appliqué ma parole avec soin. On a vu que la parole de Dieu s'applique avec soin. C'est-à-dire que tu honores Dieu quand Dieu voit que tu es allé jusqu'à la lettre. C'est pour ça qu'il dit ceux qui cherchent de tout leur cœur, de tout leur cœur. Il n'y a pas, on a parlé de cœur la fois passée, c'est hier. Hein. On a parlé de différents cœurs, de tout leur cœur, si tu veux voir Dieu agir. Tu veux voir Dieu agir. Le psaume 119 dit ceci. 119, verset 148. Est-ce qu'on peut aller là-bas rapidement? Il dit ceci. Je dévance. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 148. Oui. Il dit, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ça, c'est quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce que Dieu dit pour que sa vie soit transformée. C'est-à-dire qu'il s'applique, il faut qu'il y ait une certaine discipline. Tu dois t'appliquer si tu veux commencer à voir les choses changer. Eh bien aimé, Dieu est terrible. Quand il prend quelqu'un pour l'utiliser, il l'utilise vraiment. Mais je vous dis, ces gens-là que Dieu utilise, ils ne sont pas favorisés. C'est simplement qu'ils ont décidé d'honorer Dieu plus que toute autre chose. Et tu le vois, et tu vois Dieu en train de les élever. Il n'y a pas de formule à part honorer Dieu. Ça, c'est la formule. Tu veux voir Dieu faire, il faut que sa parole prenne le dessus dans ta vie. C'est tout. Moi, je voudrais vraiment que par la grâce de Dieu, on arrive à un certain niveau ensemble. La parole de Dieu transforme les gens, elle change les choses. Mais, bien aimé, on doit avouer que nous sommes vraiment des désobéissants. Parce que pose-toi un peu la question. Après tous les messages que tu as reçus là, tu ne penses pas qu'il y aurait un peu mieux? Ça, c'est la question que Dieu m'a posée. Tout ce que tu as entendu, les messages depuis 1980, alors quand je suis converti depuis 80, soit fin 80 là, tout ce que tu as entendu, tu ne penses pas que ce serait un peu mieux? Les Français disent, on ne peut pas dire un peu plus mieux. Meilleur, voilà. Tu ne penses pas que ce serait meilleur? Tu ne penses pas? Non, réfléchis un peu. Tout ce que Dieu a dit là. Non! Regarde-toi bien. Tous les messages canons que tu as reçus. Tout ce que Dieu a déclaré. Comment tu dois faire ceci? Comment tu dois faire cela? Comment conquérir ceci? Comment? Pense un peu à toute la parole de Dieu qui est sortie. Pour voir combien on a un cœur solide, tellement que Dieu parle, mais tu es tout en train de te battre, en train de résister, en train de donner de bonnes raisons pourquoi tu ne peux pas, en train d'expliquer à Dieu comme s'il ne sait pas de quoi il parle. C'est pour ça que les choses ne changent pas. Imaginez un peu ce jour-là, il aurait dit aux disciples, jetez le filet de l'autre côté du bateau et vous aurez les poissons. Et puis les disciples commencent. Jésus, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Nous, on a travaillé toute la nuit. Imaginez un peu, s'ils avaient passé le temps à discuter. Non, mais tu vois, est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu as vu comment on vit ici? Est-ce que tu as toute la nuit, on n'a rien? Donc, tout le temps que tu parles, là, en train de discuter, tu es en train de retarder un miracle qui t'attend. Ça, c'est Israël. Parce que tout le temps, on est en train d'expliquer à Dieu pourquoi ils doivent rentrer en Égypte. Ils ont fait 40 ans et plusieurs sont morts. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous déclarent, j'ai une promesse, Dieu a dit, depuis que tu as dit ça. tu fais le surplace depuis que tu as parlé. Et parce que Dieu a menti. Non, il n'a pas menti. Il a un grand problème. Son grand problème, c'est toi. La dernière instruction que Dieu a donnée, on va faire un exercice. La dernière instruction que Dieu a donnée à Israël à travers la bouche de Moïse, c'est la dernière. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome 28. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Deutéronome 28. Qu'on a trouvé, on dit Amen. Deutéronome 28. Ok, voilà ce qu'il dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, en mettant en pratique quoi? Tout. Que je te prescris. Dieu parle de sa parole comme on parle des ordonnances chez le médecin. Mais si tu mets tout ça, je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, je te donnerai la supériorité. Si tu obéis à ma parole et tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. Et puis il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc ça coule sur toi comme une chute d'eau. Ouh! Fais pleuvoir, Seigneur. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça sera ton partage quand? Lorsque tu obéiras. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. C'est-à-dire que, écoutez bien aimé, ça, ce n'est même pas, Dieu ne parle même pas encore de toi. Il parle d'abord de tes brebis. Think about it. La dose est tellement forte que même tes chats se multiplient dans la maison en désordre. Non, mais non, la dose est tellement grande qu'elle te laisse toi d'abord tranquille. Elle envahit ta maison, les brebis se multiplient. Si tu as des chiens, ils remplissent la maison. Vous comprenez pas ce que Dieu dit, c'est ça, non? Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Tu atterris dans un territoire, tu es multiplié. Même si ce n'est pas ton pays. Même si c'est bien aimé. Je vous dis des choses qui sont vraies. Tu peux être étranger dans un pays, on ne te connaît même pas. Mais dès que tu arrives, parce que tu es arrivé, Dieu commence. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Il fait des folies. Il fait des folies. Il fait des folies pour tous ceux-là qui savent le craindre. Non, il va faire des folies. Parce qu'il dit, celui qui m'honore, je vais l'honorer. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui est mieux que tu trouves mieux à faire à part obéir à la parole? Quelles sont les raisons que tu donnes quand tu dis oui, non, moi je ne peux pas, non, parce que tu vois. Quoi? Qu'est-ce que tu fais de mieux? Depuis que... Bien aimé, des fois on doit reconnaître que même les choses qu'on fait là, on s'embrouille, on tourne en rond. Il suffit qu'ils disent un seul mot. Tout ce que tu fais là, change. Oh Dieu! Dieu! L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Sur toutes ces maladies, sur toutes ces confusions, sur toutes ces douleurs. Il te donnera la victoire qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront, je suis au verset 7, hein, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Sept, ça veut dire, sept c'est complet, hein. C'est-à-dire une fuite complète. Ils ne vont pas revenir. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Bon, ok, vous suivrez tout ça. Si vous voulez, il y a 14 versets de bénédiction. 14 versets de bénédiction puissants. Ok? Mais Dieu dit maintenant, verset 15, là les bénédictions s'arrêtent. Il dit maintenant, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout ce commandement et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit... Ah non, pardon. Non. Le fruit de mes entrailles, ça veut dire mes propres enfants. David a essayé de blaguer avec Dieu. Pense que Dieu blague. Bien aimé, don't you even mess with him. David a pensé que bon, comme Dieu l'a blâmé beaucoup, il peut quand même un peu dribbler Dieu. Il va prendre la femme d'Uri. Quand il est allé prendre la femme d'Uri, Dieu l'appelle par le prophète Nathan. David, tu blagues avec moi? Il dit, attends, je vais te montrer qu'on ne blague pas avec moi. Le fils de David fout David dans son propre fils, ses propres entrailles. Ça, la malédiction commence. Son propre fils le fout dehors. Il devient roi. Il prend les femmes de David et ses concubines. Il les viole au balcon, au vu, au su de tout le monde dans le pays. Ce n'est pas fini. Son fils, un autre, va et il couche avec sa sœur. Non, pas couché, il viole sa sœur. David redevient vagabond, l'homme qui a régné que Dieu... Oh, il redevient ses entrailles. Ceux qui ont fait tout ça, c'est ses enfants. Pas les ennemis, ses propres entrailles. Tu vas blaguer? On va compter les bénédictions. On a vu qu'il y a 14 bénédictions, n'est-ce pas? Mais quand tu lis quand on lit les malédictions, ça commence au verset 15, ça se termine au verset 68. Donc ça dit ceci, que c'est les malédictions sont venimeuses. Les bénédictions, Dieu en donne 15, très puissantes. Mais quand la malédiction commence, commence aussi la prière. C'est là que vraiment tu vas chercher Dieu. Il dit, comme tu ne m'as pas écouté, tu me chercheras et tu ne me trouveras pas. Vous avez vu combien de malédictions? Attendez. Donc, il y a 54 versets de malédiction. 15 de bénédiction. Ça veut dire que commence à blaguer. Tu vas voir l'autre revers de la main de Dieu jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est mes entrailles. Quand je vois, je dis, mais mes enfants, non, si je dois me préserver. Parce que toi qui fais ça, des fois, Dieu peut te laisser. Et tu meurs vite. Tu meurs vite. Mais les enfants, eux, ils auront toute la vie à payer le prix. Toute leur vie. En train de payer le prix. Oh, que Dieu nous fasse grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Je vais te poser la question, savoir qu'est-ce que je mets en pratique ou juste. Hein? C'est quoi là que je mets en pratique? Vous allez voir ici que Dieu dit, tu mets en pratique ma voix, mes commandements, mes lois. Vous comprenez? Je voulais qu'on aille, on rentre encore dans le psaume 119. Je vais vous montrer certains aspects de la parole de Dieu que nous devons apprendre à respecter. Parce qu'il y a plusieurs aspects à la parole de Dieu. Ok? Psaume 119. Ok. Psaume 119. On a trouvé? Ok. Lisons le verset 2. Ok. Non, verset 1. Ok. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon quoi? Ok. La loi ici, la loi de l'Éternel ici, ce sont les règles de conduite. C'est ça, les règles de conduite. Ceux qui marchent selon les règles de conduite. Ok? Ça veut dire ceci. Les règles de conduite de Dieu, c'est on te frappe à la joue gauche, tu donnes la droite. Ça, c'est les règles de conduite. C'est ça. Les règles de conduite, c'est que tu ne peux pas te venger. Ce sont les règles de conduite. Autrement dit, devant la cour suprême de Jéhovah, ce sont ces règles-là qu'il applique devant dans ton cas. Donc, si tu veux te défendre, amen, ça doit être par rapport à ces règles-là, les lois. OK? Donc, Dieu ici dit les lois. Alors, et puis deux, heureux ceux qui gardent ces les préceptes, ce sont les principes. Donc, on a vu les lois, ce sont les règles de conduite. Les préceptes, ce sont les principes. Et qui marche, je suis 3, hein, qui, au verset 3, c'est qui ne commettent pas l'iniquité, qui marche dans ses voies. Ceux qui décident de faire les choses telles que Dieu aime les faire. Marcher dans ses voies, c'est marcher dans sa façon de faire les choses. Me suivez un peu. Dieu a une façon de faire les choses. Si tu veux voir le résultat de Dieu, tu seras obligé de faire les choses comme Dieu les fait. Ça va jusque-là. Donc, on a vu les lois, les préceptes, les voies ou ses manières à lui. Et puis, 4. Tu as prescrit des ordonnances. Ici, les ordonnances, on a parlé de ça hier. Les ordonnances de Dieu, c'est comme les, je dirais, les prescriptions à ton problème. Voilà. Tu amènes à Dieu un problème. Tu lui dis, voilà Seigneur, voilà le problème que j'ai. Dieu regarde ton problème, il te donne une prescription. Comment est-ce que ce problème sera résolu? Ça, c'est le seul moyen pour toi de voir Dieu agir dans ton... C'est quand tu respectes la prescription. Quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait une prescription. Une ordonnance, il dit, voilà, pour ton cas ici, le matin, le soir. OK? Toi maintenant, depuis qu'on a donné les prescriptions, tu ne veux pas les prescriptions. Toi, tu veux qu'on impose les mains, que tu tombes par terre. Bien aimé, quand, comment il s'appelle? Le général assyrien qui avait la lèpre là, qu'est-ce qu'il a fait? Il va chez le prophète, on lui dit, saute sept fois dans l'eau. Ça, c'est une prescription. C'est simple. Tu vois le miracle, tu obéis à la prescription. OK? Verset 5. Oh mon Dieu, on ne pourra pas terminer ça. Il y a les statuts, afin que je garde tes... Vous avez vu ça, 5b, à la fin. Afin que je garde tes statuts. 6. Alors je ne rougirai pas à la vue de tous les commandements. OK? Bien aimé, si vous allez vous lire ou vous allez découvrir autre chose, il y a, par exemple, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu font partie de sa parole. Quand Dieu te fait une promesse, ce n'est pas comme pour toi le choix de dire si tu acceptes ou pas. Non. Dieu ne te fait pas une promesse et puis te dit, bon, j'accepte, mais je n'aime pas la promesse. Non, ça ne dépend pas de toi. La promesse de Dieu sort comme un ordre de Dieu. Quand Dieu dit à Israël, sortez de l'Égypte, allez dans un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays que je vous donne. Ce n'était pas une promesse pour qu'ils se sentent bien et de décider s'ils vont accepter ou pas. Non! Cette promesse, c'est que pour que tu la poursuives. Israël arrive dans le désert, ils disent non, rentre en Égypte. Comme ils ont commencé à balbutier, murmurer, Dieu a dit, ce peuple, il dit, ça c'est Dieu, ce peuple, je veux le tuer ici. Dieu dit, je veux le tuer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts de la vieillesse. Dieu voulait les tuer dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas accepté la promesse. Parce que la promesse fait partie de la parole de Dieu. Elle est sortie de sa bouche. C'est sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez que je... Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas, bon, je n'aime pas ta promesse, je reste là où tu suis. Non! Tout ce qui sort de sa bouche doit s'exécuter. Même s'il t'a promis, tu dois poursuivre la promesse. Vous savez, quand Dieu commençait à nous dire, bon, écoute, on commence l'église anglophone, je dis, Seigneur, pourquoi tu ne laisses pas seulement avec les choses qu'on fait ici? Pourquoi il faut midi à 14h? Le Seigneur me dit, je ne suis pas en train comme de discuter avec toi. Cette église deviendra grande, elle fera ceci. Moi, je dis merci, mais moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Non, ce n'est pas moi de dire à Dieu, oui, merci, je n'ai pas vraiment besoin de la grandeur. Je dois poursuivre ça. Vous comprenez un peu? Hey, tu ne dis pas à Dieu, oh, merci pour la grandeur, ça ne m'intéresse pas. Non, tu poursuis. C'est la parole, tu l'exécutes. C'est ça, c'est la parole que tu l'exécutes. Je vous ai dit la fois passée que le seul moyen de vraiment expérimenter Dieu, c'est en mettant sa parole en pratique. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, ça dépend de la condition et l'état de ton cœur. Si ton cœur résiste à Dieu, tu ne verras aucun résultat de Dieu. Vous connaissez l'histoire le semeur, hein, le semeur. Je sais que le semeur qui sort et jette les semences. Ce qui m'étonne dans ce passage-là, c'est que toutes les personnes, tout le monde qui était là était exposé à la parole. Mais il n'y avait que très peu qui voyaient les résultats. Il a dit que la bonne terre, c'est ceux qui avaient le cœur honnête et bon et qui allaient pratiquer à persévérance et commencer à voir les fruits. Mais tous les autres là, la semence tombait dans leur cœur. Comment il n'y avait pas de fruits? C'est pour vous dire, bien aimé, même pendant que je parle là, il y a une partie incirconcise qui refuse. Donc, dis, parle comme tu veux. Oui. Et puis il y a d'autres, comme la Bible dit, elle tombe sur les voies, hein, sur le terrain rocailleux. Donc, c'est ceux qui prennent la parole avec joie. Ils sont seulement contents parce que c'était bien présenté. Ils sont contents. Waouh, ça c'était une parole. Bien aimé, depuis que tu as dit que c'était une parole, comment tu ne changes pas? Vous savez quoi? On doit bien évaluer nos cœurs. On est tellement à l'église qu'on est endurci parce qu'on a tellement écouté les belles paroles. On peut même comparer ce qui parle bien, ce qui ne parle pas bien. On peut comparer. On peut dire, lui parle bien. Il parle même mieux que tel. Donc, tu as tellement eu une maîtrise dans l'écoute des gens que tu sais maintenant qui parle bien, qui ne parle pas bien. Tu peux même devenir un arbitre. Tu peux même devenir un professeur. Tu as tellement écouté que tu es très bon à écouter. Et tu es médiocre à changer. Quelle tragédie. Je trouve que c'est une tragédie d'être exposé à des choses puissantes comme ça. Bien aimé, ça me fait, je sais pas. Aujourd'hui, j'étais à Office Max. Il y a une femme qui fait la photocopie. J'arrive là. Oh, elle voit sur le poster. Elle voit Mother's Day, Church Service, tout ça là pour l'église anglophone. Elle dit, waouh, moi je dis, ah, tu veux venir, viens à l'église. Elle me dit, pourquoi je dois venir à l'église? Vous allez me payer? Et puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans l'église pour que je vienne? Qu'est-ce que je vais avoir? Combien vous allez me payer pour que je vienne dans votre église? Je dis, non, on ne paye pas. Et puis, soudainement, pendant qu'on parlait, je la vois un peu, elle change comme ça, elle me dit, tu sais, je pense au moins que j'ai besoin d'aller à l'église. Je dis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Alors, je ne sais pas, Dieu m'a instruit, il m'a dit, parle-lui de ton témoignage. Je commence à expliquer comment j'ai fait des mois sans dormir, comment je vivais, j'avais ce qu'on appelle ici anxiety attack, hein, l'anxiété. J'avais des peurs là, qui me rendent. Il y a des paniques comme ça, de peur. Et puis je commençais à expliquer comment je planifiais mon suicide. Pendant que je parlais, elle a commencé à pleurer, elle a sangloté. On a parlé pendant 2 heures. Elle m'a dit, pardon, ne parle pas, dis-moi ce que je dois faire. Tu es en train de raconter ma vie. J'ai dit à ma soeur en secret que c'est la dernière fois qu'elle me voyait. Je planifie ma mort. Quelqu'un que tu voyais normal, saisi par le péché qui la ronge jusqu'à la tuer. Elle dit, je dis à ma soeur, elle te pleurait des larmes chaudes. J'ai eu pitié d'elle. Je suis là pour juste 15 minutes. On est resté pendant 2 heures. Elle m'écoutait. Je dis, Seigneur, si tous les chrétiens pouvaient écouter comme cette pauvre brebis, comme c'est la première fois qu'elle entend des choses qu'elle n'a jamais entendues, mais des choses que toi tu écoutes tous les jours, à force d'écouter, tu t'es endurci. Maintenant tu choisis ce que tu veux entendre, ce que tu ne veux pas. Ça je ne veux pas, ça je veux. Ça je n'aime pas. D'ailleurs je n'aime pas cette parole-là. Elle écoutait comment ça l'a transformée. Alors je dis, écoute, je veux partir. Elle me dit, pardon. Tu me dis, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour rester vivant? Je ne vois plus de sens à ma vie, je dois mourir. Je commence à l'expliquer. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai expliqué comment je donne ma vie à Jésus. Je dis, ah, moi aussi j'ai besoin de ça. Et puis je lui dis que je suis pasteur. Je dis, tu es pasteur. Tu sais que c'est Dieu qui t'a amené ici. C'est Dieu qui t'a amené. Je ne savais plus quoi faire. C'est Dieu qui t'amène. Il me dit, je fais des semaines, je ne dors pas. Dis à mes yeux, je viens de voir au travail les yeux bleus ici, parce qu'elle fait un peu Spanish. Elle veut mes yeux bleus, je ne sais pas dormir. Moi, je dis, j'ai connu la même chose. Mais quand Jésus-Christ Nazareth entre, il amène un feu qui consume tout ce qu'il y a de mort en toi. Oh, le médecin, il sait exactement quel est le problème. Il sait exactement comment le résoudre et il a ce qu'il faut pour le résoudre. Oh, me dit, parle-moi de ce Jésus. Oh. On a commencé à parler. Le lendemain, je rentre et me dit, tu sais quoi? J'ai dit à ma maman, on doit aller à l'église. J'ai dit à ma maman, on doit aller à l'église. Ma maman reste à la maison, elle ne fait rien. On va aller à l'église. Maman était surprise. Elle dit, quoi? Elle dit, non, j'ai rencontré un homme. Il me dit des choses. On doit aller l'écouter. Et puis, au travail, elle appelle tout le monde. Elle dit à tous ses amis. Elle dit, écoutez, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part et on va tous à l'église? J'étais là. Et puis l'autre qui est son manager lui dit, toi, tu vas à l'église? Elle dit, oui, je vais à l'église. Tu veux qu'on se rencontre ici au travail le dimanche et puis on vient? C'est-à-dire que le rendez-vous, ils sont seulement ici à Everett. On se rencontre, on vient. Moi, écoutez, je ne dis pas ça pour vous impressionner. La soif que j'ai de parler de Jésus, vous savez combien, quand je l'écoutais, quand je la regardais, je dis combien de gens marchent comme ça, ont l'air normal, mais à l'intérieur, ils sont en train de mourir. Et nous qui connaissons la vérité, on a... Je commence à parler. Écoutez, parler de Dieu, c'est différent de parler d'une religion. Je suis en train de te dire, de commencer à prier 40 jours. Non, d'ailleurs, bien aimé, les gens qui sont allés voir Jésus, ce ne sont pas des gens qui allaient lui demander d'apprendre à prier. C'est une histoire d'une vie qui transforme, une vie abondante, où le péché n'a plus d'effet sur toi. La force du péché est brisée. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a amené. Tu es transformé. Mettre la parole de Dieu en pratique a à voir avec ton état de cœur. Est-ce que ton état de cœur est prêt à accepter la parole de Dieu? Parce que il y avait ces sémences-là. Jésus-Christ vient, il dit, le semeur est sorti, comme Dieu sort, comme la parole sort maintenant, en train de jeter la parole partout. Mais il y en a qui écoutent, sont seulement contents parce que c'est bon. Il y en a qui écoutent pour oublier la porte ici. Mais il y en a aussi qui se disent, Seigneur, je reçois avec humilité et j'accepte ta parole dans ma vie. Elle doit me changer. Je dois changer par rapport à ta parole. Et il me dit, avec persévérance, ça veut dire qu'ils tiennent tellement au changement qu'ils vont poursuivre ce que Dieu a dit jusqu'à ce que ça prenne place. Ça, c'est un changement. Mais même quand Dieu parle maintenant, ce que vous entendez maintenant, vous allez l'oublier. Dans deux semaines, c'est beaucoup. 3 jours, vous allez oublier. Si tu ne te dis pas, je vais mettre ça en pratique, ça va partir. Ça va partir. Parce que combien de paroles tu as entendues? Mais si tu décides, tu poursuis, tu vas changer. Il y a une parole que moi je trouve très puissante par rapport à l'état du cœur. Jésus-Christ dit ceci. Si tu veux venir après moi, tu dois te charger de ta croix et me suivre. Il dit, tu ne peux pas venir après moi. Ne suis même pas Jésus si tu ne portes pas la croix. Avant, moi, je croyais que la croix, c'était accepter la souffrance. Parce que souvent, on dit, ah, tu souffres, hein? C'est ta croix, porte-la seulement. C'est la croix de ta vie, hein? Accepte la croix. Et ce que moi, je pensais, c'était la souffrance. C'est ça notre croix. Alléluia. Donc, mon problème, c'est ma croix que Dieu me donne. Jésus avait sa croix, moi, c'est ma croix, c'est mon problème. Et j'ai découvert que la croix n'a rien à voir avec la souffrance. La croix n'a rien à voir avec la souffrance. La croix a à voir avec l'obéissance. Parce que Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté à toi soit faite. Autrement dit, Christ dit ceci, si tu veux commencer à me voir à l'œuvre dans ta vie, tu seras obligé d'être cloué à la croix. Au point où tu n'as plus de volonté, tu n'as plus le temps d'expliquer à Dieu combien tu as de choses à faire. Il n'y a qu'une seule chose que tu vas faire dans la vie. C'est la volonté de Dieu. Pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu as autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu, d'abord, je vais vous poser une question. Tout ce que tu fais là, qui te demande de le faire? Tous les programmes que tu as, qui te demande de le faire? Est-ce que tu penses que tout ce que tu fais là, c'est approuvé au ciel? Quand tu as un cœur qui veut honorer Dieu, tu attends l'approbation. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Vous savez quoi? Il y a un pasteur qui m'a appelé. Je m'étais décidé de ne plus trop voyager. Il y a un pasteur qui m'appelle. Il me dit, j'ai besoin de toi, tu dois venir dans mon église, tu dois venir. J'ai dit, non, j'ai refusé plusieurs invitations comme ça. Depuis les 2 années ici. Il m'a appelé, comme j'étais habitué, mais je me suis habitué à refuser les invitations. Il m'appelle, je dis aussi non automatiquement. Dès que je raccroche, Dieu dit, va te repentir. C'est toi qui décides où tu vas ou c'est moi qui décide. Dieu dit ceci, si tu cherches à gagner ta vie, tu vas la perdre. If you're trying to fight God, I have things. You are fighting him and you are losing your own life. Tu es en train de combattre ton propre futur parce que ton futur n'est que Dieu qui l'a. Donc en résistant Dieu, tu résistes l'avancement de ta vie. Parce qu'il dit, tu résistes. Bien aimé, I'm trying to teach you truth. Do not resist. Il dit, c'est lui qui essaye de garder sa vie, la paix. Mais c'est lui qui la perd pour moi. Autrement dit, somewhere you're going to feel like you're losing your life. Am I making sense? Yeah. Quelque part, tu vas sentir que, do I have, vous savez comment les Américains disent, I don't have any life. You heard that before? I don't have life. Ça veut dire que tu es tellement busy, you wonder if you ever live. Dieu dit quelque part, you're going to feel like you don't have life. Tellement qu'il va, he's going to pour you. Il va, he's going to empty. Il va te vider. Tellement que you are working. La Bible dit que Jésus-Christ a amené le salut aux hommes à cause du travail de son âme. Hein? À cause du travail de son âme. So you want to see any change? God is going to rock your boat. Tu veux voir Dieu? C'est pour ça que je disais, hein? Tu ne peux pas chercher le confort et espérer obéir à Dieu. C'est comme si il est spécialiste à bouger les conforts des gens. Once you say, prends, Jésus, prends ma vie. Il dit, ok, merci, merci. Arrête de chanter. On va passer au travail maintenant. C'est oui. Parce qu'il dit, prends, Jésus, prends ma vie. Tu penses que c'est une chanson. Il dit, wait, merci, merci. Je l'ai déjà pris. Je l'ai déjà prise. Maintenant, passons au travail. Arrête ça. Arrête ceci. Commence là-bas. Fais ceci. Change ça. Change. Le travail commence. Hey, c'est quoi ce magazine? Enlève tout ça. Hey, écoute, va là-bas. Écoute, arrête de dépenser ici. Chasse tous ces amis-là. Le travail commence. Un travail qui commence. Aujourd'hui, j'avais qu'une chose à vous dire. Est-ce que tu es prêt à prendre une décision qui va changer ta vie? Est-ce que tu veux prendre cette décision-là? C'est simple. C'est là que je me dis, on n'a pas besoin de faire trop d'imposition de mains, d'imposer les pieds. Tout ce que tu as à faire, c'est just one decision qui va complètement changer ta vie. Pense à ceci. Si tu veux garder tes principes, tes préceptes, tu perds ta vie. Mais si tu te livres, Dieu dit, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toutes tes forces, avec tout ce que tu as, lui Seigneur, je n'ai pas de réserve. Je ne me réserve pas. Tout ce que tu veux faire de moi, fais-le. Then, tu commences à voir Dieu s'augmenter en toi. Dieu. Père, fais-nous grâce parce que c'est vraiment pas par la force. J'ai vraiment le désir de m'offrir à toi. Mais je sais que c'est par ta force que je peux l'accomplir. Je veux le faire, Père. Tu dis à Dieu cela, je veux le faire. Je veux m'offrir à toi. Je veux, Père, te servir. Je veux le faire de tout. Je veux le faire de tout mon cœur. Je veux m'offrir à toi. Père, au nom de Jésus, merci. Merci d'être ma force. Merci, Père, même d'accepter de me parler. Chaque fois que tu me parles, mon Dieu, les confusions sont dissipées. J'aime t'entendre parler. C'est un privilège de t'entendre, mon Dieu. C'est un privilège de t'entendre parler. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité. Je te bénis, Père, pour ton amour. Et je te bénis pour ce que tu es en train de faire pendant ce moment dans la vie de tes enfants, je suis convaincu que tu es en train de changer les choses. Maintenant même, il y a des forteresses qui tombent parce que tu es en train d'agir, mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire « je reçois » ? Merci, mon Dieu, d'établir la paix. Merci d'enlever les barrières qui empêchent, Seigneur, mon Dieu, tes enfants d'être libres, de te servir. Merci d'enlever les craintes, les peurs, mon roi, mon Dieu, qui peuvent nous limiter d'accepter le son de ta voix. Merci, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus.